Bonjour. Aujourd'hui, nous vous offrons une sélection de textes tirés des médias suivants. Nouveau projet, La Terre de chez nous et sélection du Reader's Digest. Au programme, OnlyFans. Des carottes surgelées importées de la Pologne. Et 9 symptômes d'un foie en mauvaise santé. Bonne écoute.
OnlyFans, un texte de Martine Bécôté, paru dans l'édition Automne-hiver 2022 du magazine Nouveau Projet. Comment la plateforme est-elle devenue le summum de la libération féminine? Les féministes se chicanent fort et depuis longtemps sur la sexualité des femmes. À propos de la prostitution et de la pornographie notamment, deux courants s'affrontent. Dans un coin, on trouve celles qui voient une façon de maintenir le système patriarcal et de renforcer la domination des femmes. Dans l'autre, celles pour qui ces industries peuvent tout au contraire représenter une reprise de pouvoir individuel, un moyen subversif de déroger aux règles fixées par les hommes. La popularité croissante d'OnlyFans, l'Instagram du sexe, a de quoi mettre de l'huile sur le feu. Au début de la pandémie de COVID-19, des femmes déjà actives dans l'industrie du sexe ont orienté leurs activités vers OnlyFans, en tout cas celles qui disposaient des outils et des connaissances technologiques nécessaires. Des célébrités comme Cardi B ou Bella Thorne y ont aussi vu une façon de décupler leurs revenus. Mais grâce à un travail de marketing vantant la possibilité de faire beaucoup d'argent en restant chez soi, la compagnie a attiré de nouvelles catégories de femmes. Des travailleuses qui n'arrivent pas à joindre les deux bouts, d'autres qui ont été soudainement privées d'emploi ou de PCU, et des jeunes qui trouvent ça ringard de travailler chez McDo. Bref, de plus en plus de femmes, comme vous et moi, ont récemment répondu à l'appel de l'homme d'affaires britannique Tim Stokely, créateur de la célèbre plateforme, et ont fait de leur corps de véritables entreprises. Devenir un soi-entreprise. Le principe d'OnlyFans est simple. Vous créez un compte, vous téléversez des photos et vidéos et vous proposez à vos fans de débourser entre 5 et 50 $ par mois pour y accéder. 20% du revenu que vous tirez de vos abonnements va à la plateforme. Des 5 $ que vous versez chaque mois, appelons-le A commercial Pat 85, vous touchez donc 4 $. À ce rythme-là, il vous en faudra beaucoup des abonnés mensuels pour mettre du beurre de noix sur votre pain. Ce que nous connaissons d'OnlyFans, ce sont surtout les quelques vedettes qui parviennent à engranger des revenus dans les 6 chiffres. Au Québec, des femmes comme Hélène Boudreau et Noémie Dufresne rapportent gagner plus de 100 000 $ par mois grâce à leurs milliers d'abonnés. Elles font partie d'une classe à part, car selon les statistiques les plus récentes, une créatrice OnlyFans gagne en moyenne 150 $ américains par mois et possède 21 abonnés. Mais le site a prévu le coup. On suggère aux personnes qui ont peu d'abonnés de rendre leur compte accessible gratuitement et d'opter pour des transactions à la pièce. Ainsi, plutôt que de vous verser 5 $ par mois, A commercial Pat 85 pourra vous acheter à l'unité pour 10, 15 ou 20 $ une photo exclusive, une vidéo personnalisée ou une prestation virtuelle en direct pendant laquelle il pourra également vous verser un pourboire. Un pécule amassé à coups de réponse aux demandes précises de monsieur qui installe un nouveau rapport vendeuse-client. De créatrice d'un contenu auquel on s'abonne, vous passez à livreuse de contenu dicté, commandé, voire exigé. Les stars d'OnlyFans sont probablement peu tentées par cette pratique, mais qu'en est-il de celles qui peinent à boucler leur fin de mois? La compagnie indique que plus de 150 millions de personnes utilisent maintenant son site pour y suivre des créatrices. Ces dirigeants-dirigeantes expliquent ce succès par le fait que la plateforme offre des images plus authentiques que celles proposées par la porno gratuite, du contenu sur mesure et surtout une interaction avec les créatrices. Sur le blog d'OnlyFans, on peut d'ailleurs lire que la façon la plus facile de booster un compte est de s'investir encore. Ellipse. Vos fans veulent se sentir proches de vous d'une façon unique. Cet accès presque direct, personnalisé, donne aux clients l'impression d'entretenir une relation particulière avec leur OnlyFans girl. Et ils sont nombreux à vouloir plus, à insister, à harceler, parfois à demander une rencontre, voire une relation sexuelle en présentiel. Dans le cadre de mon travail de chercheuse et d'intervenante dans le milieu de la prostitution, j'ai aussi entendu des histoires de proxénètes qui alimentent de faux comptes avec des photos volées à de jeunes femmes, harcelant des créatrices à coups de « tu pourrais faire tellement plus d'argent si je m'occupais de toi » et des récits de femmes forcées à se prendre en photo à toute heure du jour ou de la nuit par crainte de représailles de la part des proxénètes qui gèrent leur compte. Mais l'opinion publique préfère voir cette plateforme comme le summum de la liberté individuelle de disposer de son corps, voire une façon de prendre les commandes d'une industrie traditionnellement contrôlée par des hommes. Je soupçonne le néolibéralisme ambiant d'y être pour quelque chose. Vous écoutez OnlyFans, un texte de Martine Bécoté, paru dans l'édition automne-hiver 2022 du magazine Nouveau Projet. Bienvenue dans le néolibéralisme genré. Il y a longtemps que le néolibéralisme n'est plus un simple système économique. Pour la politologue Wendy Brown, les valeurs du marché se sont désormais étendues à l'ensemble de nos institutions. C'est un mode de vie, un code de conduite. Cette logique n'a pas seulement des vues bien précises sur la gouvernance des États et les politiques économiques. Elle conçoit l'individu comme un acteur, une actrice du marché, une personne qui a les coudées franches pour intervenir sur sa vie, un agent, une agente autonome, capable de faire fructifier son capital. Les transactions y seraient conclues de gré à gré, comme si les rapports de force, incluant ceux entre les femmes et les hommes, avaient disparu. Le néolibéralisme a ainsi permis le développement d'une nouvelle forme d'entrepreneuriat, la gig economy, dans laquelle OnlyFans trouve un nid douillet pour se développer. Dans ce que certains et certaines ont appelé l'ubérisation du monde du travail, fini les horaires et les avantages sociaux collectifs. Et typiquement, la série de petites rémunérations à la tâche vantées par le site, une photo, une vidéo, une prestation en direct, dépourvue des protections sociales du salariat, fait de l'instabilité la nouvelle normalité. Ici, la frontière entre le travail et la vie personnelle s'amenuise. Vous êtes en train de préparer le lunch de votre petite dernière? Vite, enfilez votre costume de dominatrice et réalisez une vidéo pour ne pas passer à côté de 20 $. Pas de doute, OnlyFans participe de plein pied à cette nouvelle forme de travail précaire, atomisant et intrusif. La liberté d'entreprendre a d'abord pu paraître attrayante pour certaines féministes. L'idée d'une individualité autosuffisante semblait en effet annoncer la fin de la domination masculine et leur promettait une nouvelle agentivité sexuelle. Mais on a plutôt assisté à un renforcement de la notion patriarcale selon laquelle la principale source de pouvoir des femmes est leur sexualité. Une sorte de capital érotique qui leur permettrait de gravir les échelons, de faire leur place dans un monde d'hommes. Les féministes des générations précédentes se sont battues contre l'objectification sexuelle des femmes, les concours de Miss, les publicités sexistes et de nombreuses autres pratiques qui nous ramènent à nos corps sexualisés. Or, le néolibéralisme a trouvé le don de ressusciter de telles pratiques et de les marketer comme des actes d'empowerment. Et ce nouvel adoubement est venu avec son lot de contraintes. Une discipline corporelle rigoureuse, une pression de désirabilité et de fréquentes améliorations et retouches apportées à nos corps-entreprises. Une spirale sans fin de travail sur son corps qui coûte cher. La culture néolibérale cherche à briser l'esprit collectif, les luttes communes. Elle éteint les tentatives des féministes de renverser collectivement les structures patriarcales. Elle nous invite plutôt à tirer individuellement notre épingle du jeu, à faire avec. Loin de gommer les inégalités entre les femmes et les hommes, cette bibitte s'en nourrit, entre autres en nous ramenant à l'idée que nous sommes une offre pour la demande mâle. Mais dans ce marché, une illusion tient lieu de principe. Nous aborderions cette compétition à armes égales. Donc, Pour 5 $, A Commercial Pat 85 aura le choix entre vous et Cardi B. Vous pouvez toujours rechigner et crier à la concurrence déloyale. La pensée néolibérale n'en a que pour le « si tu veux, tu peux » et au plus fort la poche. Le corps comme ressource? On l'aura compris. OnlyFans repose sur ce postulat, vieux comme le monde, que le corps des femmes est une ressource et que les hommes seront toujours prêts à en monnayer l'accès. Le néolibéralisme adore cette idée, capitalisable à souhait. Au cœur du discours qui rencoule le fait d'alimenter un compte OnlyFans se trouve notamment un détournement de la rhétorique de la body positivity. Né au milieu des années 1990, ce mouvement, porté par des idées d'amour de soi, d'acceptation de son corps et par la volonté de donner plus de visibilité au corps qui s'écarte de la norme, a connu un essor fulgurant et libérateur autour de 2015, propulsé par les réseaux sociaux et les mots-clics. Mais depuis, le capitalisme a réussi à nous vendre l'idée qu'une fois ce corps assumé, aussi bien l'auto-exploiter. Une des rares études scientifiques qualitatives sur OnlyFans, menée par Daniel Cardozo et Cosimo Marco Scarcelli, auprès de 20 jeunes femmes actives sur la plateforme, révèle ce discours de réappropriation de son corps. Plusieurs des femmes interrogées justifient leur décision de vendre du contenu sexuellement explicite en ligne au nom du fait d'être bien dans leur corps. L'étude montre que plusieurs ont atteint ce stade d'estime de soi après une longue bataille contre les troubles alimentaires. Le monde néolibéral a flairé l'affaire et leur offre désormais la possibilité de tirer quelques sous de ce difficile parcours d'acceptation. Autrement dit, une fois la haine du corps et la restriction sexuelle qui l'accompagne vaincue, place à la marchandisation de cette nouvelle confiance. Mais les conséquences de l'auto-objectification sexuelle des femmes sont réelles. Depuis 1997, les recherches sur le sujet se sont multipliées. Rédigées par l'équipe de Robin Wollast, l'une des plus récentes méta-analyses disponibles documente un lot d'effets secondaires à court et à long terme, notamment l'auto-surveillance du corps, body surveillance, et la honte corporelle, body shame, qui peuvent elles-mêmes être à l'origine de troubles alimentaires, de symptômes dépressifs et d'une propension à s'engager dans de multiples chirurgies esthétiques. Finalement, les possibilités de gains financiers réels sur OnlyFans sont minces. Ou se feront grâce à un investissement de temps, d'argent et d'équipement technologique qui brise la promesse de gagner sa vie selon son horaire et ses paramètres. Se dessine alors pour celles qui tentent de vivre de leurs activités une obligation de mettre toujours plus d'heures pour acquérir de nouveaux abonnés, d'aller toujours plus loin, le tout en plus de la job de jour, pour l'instant impossible à quitter. Parmi le 1,5 million de personnes qui, selon l'expression consacrée, ont un OnlyFans, la réussite a assurément de fortes chances d'arriver à celles qui sont déjà les mieux placées dans l'ascenseur social. C'était OnlyFans, un texte de Martine Bécôté, paru dans l'édition Automne-hiver 2022 du magazine Nouveau Projet.
Des carottes surgelées importées de la Pologne, texte de Caroline Morneau, paru dans l'édition du 20 décembre 2022 de La Terre de chez nous. Une étude de marché exploratoire sur la provenance des fruits et légumes transformés, servis dans des hôpitaux et des centres d'hébergement et de soins de longue durée, CHSLD, de Montréal, montre que les carottes surgelées sont majoritairement importées de la Pologne et les oignons de la Chine. On voulait corréler l'étude au potentiel de marché pour les producteurs québécois. On s'attendait à ce que des produits soient importés, mais que des légumes comme la carotte et l'oignon, qu'on cultive abondamment ici, viennent de Pologne et de Chine, ça, on a été très étonnés. a fait valoir Mario Lalancette, directeur de la stratégie et des communications à l'Association québécoise de la distribution de fruits et légumes, AQDFL, l'organisation derrière l'étude réalisée entre mars 2021 et janvier 2022. Les résultats ont été présentés lors de l'Assemblée générale annuelle des producteurs de légumes de transformation du Québec le 7 décembre à Longueuil. En entrevue avec La Terre de chez nous, M. Lalancette a expliqué que l'échantillonnage ciblé équivaut à 86 % des lits dans les établissements de santé publique de l'île de Montréal. Des listes d'achats ont notamment été analysées par l'entremise du Centre d'acquisition gouvernementale qui reçoit les besoins des institutions pour les appels d'offres. Des questionnaires ont aussi été envoyés dans les centres intégrés universitaires de santé et de services sociaux de la métropole. Les principaux fruits et légumes surgelés qui y ont été achetés entre novembre 2020 et 2021 sont des carottes, 373 tonnes, des oignons, 177 tonnes, des macédoines de légumes, 152 tonnes, des brocolis, 121 tonnes, des pommes de terre, 111 tonnes, et des haricots verts, 92 tonnes. Si les pommes de terre proviennent surtout du Canada, selon l'étude, plus de 90 % des carottes surgelées sont importées de la Pologne. 98 % des oignons de la Chine et 80 % des brocolis de l'un ou l'autre de ces deux pays. Pour ce qui est des macédoines de légumes et des haricots verts surgelés, environ la moitié vient du Canada. Mais une forte proportion est également importée de Pologne, de Chine ou de Belgique. J'aimerais travailler avec vous. Je suis surpris des chiffres qui sont sortis, a réagi au micro le directeur général de Norterra, Daniel Vielfort, après la présentation du rapport. Vous me parlez de carottes de la Pologne? Je n'ai jamais entendu parler de ça. On en fait des carottes surgelées. Il y a certainement des choses à analyser et à comprendre, s'est-il étonné. Toujours selon l'étude, l'approvisionnement en fruits et légumes transformés servis dans les établissements de Montréal est surtout guidé par les prix. Du côté des légumes frais qui sont lavés, coupés ou pelés d'avance, par ailleurs, le rapport fait état de la durée de vie des produits du Québec et des formats qui ne correspondraient pas aux besoins des institutions de santé. Quand on a demandé aux établissements si l'achat local était important, c'est vrai qu'on n'a pas eu beaucoup d'enthousiasme, mais je pense qu'il faut aussi voir des opportunités de marché pour le Québec et des choses à améliorer, a ajouté M. Lalancette en entrevue, rappelant aussi que l'échantillon cible seulement Montréal et que des données collectées dans les établissements de santé de l'ensemble du Québec apporterait peut-être des résultats différents. Un projet d'étude en ce sens, afin de mieux déterminer les besoins à travers la province, est d'ailleurs envisagé par l'AQDFL. Vous venez d'entendre lecture d'un article intitulé « Des carottes surgelées importées de la Pologne », texte de Caroline Morneau, paru dans l'édition du 20 décembre 2022 de La Terre de chez nous.
Neuf symptômes d'un foie en mauvaise santé. Un texte d'Alissa Young, paru le 15 septembre 2022 dans le magazine Sélection du Reader Digest. Si vous avez l'un ou plusieurs de ces symptômes témoignant d'un foie en mauvaise santé, il serait temps de consulter votre médecin. Premier symptôme, les yeux qui jaunissent. Des yeux jaunes sont un signe que votre foie ne va pas bien et probablement le symptôme le plus évident d'une maladie du foie, explique le docteur K.V. Narayanan Menon, directeur médical de la transplantation de foie à la Cleveland Clinic. Une substance jaune appelée bilirubine est normalement décomposée par le foie afin d'être éliminée du corps. Mais un foie en mauvaise santé peut entraîner une accumulation de bilirubine qui provoque le jaunissement du blanc des yeux et de la peau appelée ictère ou jaunisse. La jaunisse peut être causée par de nombreux problèmes de santé, notamment une infection virale, un canal biliaire bloqué, habituellement en raison d'un calcul biliaire, une réaction à un médicament ou à un traitement à effet toxique, une maladie du foie ou des maladies causant une dégradation excessive des globules rouges. Deuxième symptôme, le ventre qui se remplit de liquide. Si votre ventre se gonfle soudainement et continue de gonfler, il pourrait s'agir d'autre chose que de simples ballonnements. Une pression accrue à l'intérieur des vaisseaux sanguins autour du foie peut entraîner une accumulation de liquide dans l'abdomen, déclare le docteur Menon. C'est important de consulter un médecin. Il pourra vous dire si ce sont des gaz, des aliments ou du liquide qui sont à l'origine de ce gonflement. Troisième symptôme, souffrir d'hépatite A, B ou C. Lorsque certains virus ou parasites infectent le foie, cela peut causer de l'inflammation et réduire son fonctionnement. Les types les plus courants d'infection du foie sont les virus de l'hépatite. L'hépatite A se contracte par contact avec les matières fécales d'une personne contaminée ou par l'ingestion d'aliments ou de boissons dont la sécurité est compromise. L'hépatite B et l'hépatite C se transmettent le plus souvent par le sang, les relations sexuelles ou par contact avec d'autres fluides corporels. Une hépatite A tend à disparaître d'elle-même alors que l'hépatite B et l'hépatite C sont des maladies chroniques. Comme il existe de très bons traitements contre l'hépatite C, les gens devraient passer le test, dit le docteur Menon. Discutez avec votre médecin de ce que vous pourriez faire pour garder votre foie en santé. Quatrième symptôme, avoir constamment des démangeaisons. Croyez-le ou non, un foie malade peut provoquer des démangeaisons sur tout le corps. Nous ne sommes pas sûrs à 100%, mais il semblerait que cela pourrait être lié aux selles biliaires, explique le docteur Menon. La bile est une substance digestive sécrétée par le foie, mais chez les personnes souffrant d'une cirrhose biliaire primitive, une maladie auto-immune du foie qui entraîne un collapsus hépatique, cette bile peut s'accumuler et se manifester par des démangeaisons. Cinquième symptôme, être toujours fatigué. Une fatigue persistante est parfois un signe que quelque chose ne va pas. Même si cette fatigue peut avoir différentes causes, dont beaucoup sont relativement inoffensives, comme le manque de sommeil, une maladie du foie peut également en être responsable. Une étude de 2018 publiée dans la revue Liver International a établi un lien entre fatigue, anxiété et dépression et la maladie hépatique chronique. Si le symptôme de fatigue persiste, il est important d'en découvrir la cause avec l'aide de votre médecin. Sixième symptôme, être un gros buveur. Une consommation excessive d'alcool peut, à la longue, mener à une maladie hépatique. Comme le foie aide votre corps à éliminer les toxines et les substances chimiques, boire constamment de grandes quantités d'alcool veut dire qu'il doit travailler plus fort. Septième symptôme, faire de l'embonpoint. Faire de l'embonpoint ou être obèse n'affecte pas que votre apparence. La stéatose hépatique non alcoolique est en hausse, particulièrement chez les personnes dans la quarantaine et la cinquantaine. Selon la Liver Foundation, cela signifie que le gras s'est accumulé à l'intérieur de l'organe, ce qui peut provoquer une cirrhose, c'est-à-dire des lésions au foie. La bonne nouvelle, c'est que vous pouvez contrôler ou modifier les facteurs tels que l'obésité, l'hypercholestérolémie et le diabète de type 2 qui font augmenter votre risque de développer la stéatose hépatique. Huitième symptôme, avoir des antécédents familiaux de maladies hépatiques. Un petit nombre de maladies hépatiques sont héréditaires, déclare le docteur Menon. Alors, si vous croyez que des membres de votre famille sont morts d'une maladie hépatique ou d'un cancer du foie, parlez-en à votre médecin pour qu'il puisse investiguer davantage. Neuvième symptôme, être confus ou distrait. Même s'il n'est pas rare d'être un peu distrait, mais si vous semblez soudainement égaré ou facilement confus et que vous souffrez déjà d'une maladie hépatique à un stade avancé, ne prenez pas cela pour une simple défaillance. L'encéphalopathie hépatique est une maladie qui se manifeste quand le foie est incapable d'éliminer correctement les toxines du corps. Habituellement, chez les patients souffrant d'une maladie du foie chronique, de cirrhose ou d'hépatite, selon l'American Liver Foundation. Mais c'est très rare. Si vous remarquez ces symptômes, consultez immédiatement. C'était 9 symptômes d'un foie en mauvaise santé. Un texte d'Alisa Young, paru le 15 septembre 2022 dans le magazine Sélection du Reader Digest.
Vous pouvez retrouver cette émission sur le site de Canal M à l'adresse canalm.visevoix.com. Cette émission est rendue possible grâce à Luc Mercure, Claire Dorion et Robert Chartier à la lecture, Évelyne Séverin et Pierre Duclos à la recherche, Nicolas Vartman à la présentation et au montage.